Tout juste avant d'accueillir Jérémy Filosa au camp de l'Impact en Floride et Philippe Quentin aux Jeux olympiques en Corée du Sud, juste un petit mot pour vous parler de notre promotion qui pourrait vous amener à assister à un match des Canadiens, plus bénéficier d'une nuit à l'Hôtel Renaissance Montréal-Centreville, accompagné d'un certificat cadeau de 150 $ à la taverne 1909. Ben, continuez de vous inscrire à chaque dernier samedi du mois ou pour chaque match dernier samedi du mois, eh bien, on fait tirer un forfait. Et nos gagnants pour le match du samedi 24 février sont Patrick Perrault de Montréal et Valérie Tessier de Mirabel. Inscrivez-vous sur le 98.5fm.ca si ça vous tente de participer. Maintenant, direction Corée du Sud, où nous retrouvons Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Alors, parlons de hockey. Moi, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, semble-t-il, là-bas, à en juger par le nombre de personnes dans les gradins, mais le tournoi de hockey puis l'allure des matchs m'intéresse beaucoup à venir jusqu'à maintenant, puis je suis très curieux de voir la suite même.
Oui, ben tout à fait, je te comprends. C'était quand même pas mal bon hier. D'abord, t'as raison pour la foule. C'était vraiment catastrophique de voir ça. On serait cru à Glendale ou à un match des Panthers de la Floride. Mario, s'il n'y avait pas eu les familles des joueurs canadiens et peut-être d'autres partisans du Canada, des Canadiens qui sont en visite, et même chose du côté des Finlandais, des gens avec des drapeaux de la Finlande, je me demande s'il y aurait eu 1000 personnes dans cet amphithéâtre-là. Alors, c'était vraiment des partisans des deux équipes qui étaient là, qui ont mis un peu d'ambiance. Mais même à ça, c'est un peu triste, là, un tournoi olympique comme ça, jouer ça devant des sièges aussi dégarnis. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand la Corée a joué, les Coréens étaient là et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambiance. Mais là, franchement, hier, là, Canada-Finlande, c'était autre chose. Ça a été un match qui est parti un peu lentement en plus. Mais ça s'est animé par la suite et le Canada, franchement, a joué un bon match, limité les occasions des adversaires. Je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut retenir. D'abord, le but de Maxime Noreau, le Montréalais, le Québécois qui continue de jouer du hockey extraordinaire dans ce tournoi-là olympique. Tu as sûrement vu le but.
Tout un lancé, toute une garnotte.
Lui, il me l'avait dit. Je l'ai interviewé, Maxime Noreau, Mario, juste avant le début du tournoi olympique.
Puis oui, je me rappelle.
Comme bien des gens... tu sais, je le connaissais pas, là. C'est pas quelqu'un que j'avais vu jouer auparavant ou quoi que ce soit. Et puis, je lui avais demandé, tu sais, un peu, c'est quoi ton, tes atouts sur la patinoire. Et puis, tout de suite, il avait dit, moi, il dit, faut que je me serve de mon lancer. Tu sais, il dit que si j'ai l'occasion de lancer, j'hésite pas. Et là, j'avais dit, comme ça, t'as un bon lancer. Ah, oh, ouais, correct, tu sais. C'était pas mal correct, en effet. Et vraiment un beau but. Et puis aussi, le gardien de but, Kevin Poulin, qui, lui, est venu, en relève de Ben Scrivens, qui a été blessé à la suite d'un contact avec un joueur finlandais. Blessure au haut du corps, est-ce que c'est de la tête, je sais pas trop. On va sûrement avoir plus de nouvelles aujourd'hui. Mais Poulin arrive dans le match en deuxième période, c'est 0-0, la pression est forte. Et tout de suite, en partant, il fait un arrêt sensationnel. Et l'arrêt sensationnel, il le fait sur un lancer d'un joueur finlandais qui a reçu une passe de l'espoir numéro un en Finlande, Eli Tolvanen, qui lui a fait une passe de bord en bord dans le sens de la largeur de la patinoire, une passe tellement précise. Et là, tu vois pourquoi les Prédateurs de Nashville s'excitent avec ce joueur-là, qu'ils ont repêché au 30e rang l'an dernier, à la toute fin de la première ronde.
Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien après le 15e qu'on nous dit souvent, là, Philippe, là, je te crois pas. OK, une petite joke, okay, là, mais continue.
Excuse-moi. Ben, au moins, peut-être que lui, c'est l'exception. Mais écoute, les Prédateurs sont très, très enthousiastes avec lui. Il y a bien des gens au tournoi olympique qui disent qu'il pourrait même finir la saison à Nashville. Il pourrait jouer potentiellement avec les Prédateurs en série de la Coupe Stanley. Alors, on verra si ça sera le cas, mais c'est un gars qui joue de l'excellent, qui est très créatif, et lui aussi, c'est son lancer. Il est reconnu pour la qualité de son lancer. Alors, donc, le Canada qui l'emporte 1-0, tout le monde est content, puis on dirait que quand il y a une bonne chose qui arrive, il y en a deux qui arrivent en même temps, parce que pendant ce temps-là, il y avait un autre match à l'autre amphithéâtre de hockey. C'était la Suède contre l'Allemagne. Et là, le gagnant de ce match-là allait affronter le Canada. Tout le monde pensait que la Suède gagnerait facilement. Surprise, ça a été les Allemands qui ont gagné en prolongation. Donc, le Canada se retrouve en demi-finale contre les Allemands. Et bon, les Allemands peuvent-ils réussir un tour de force deux fois consécutives? C'est pas clair.
Ben, pourquoi
pas? C'est loin d'être sûr.
Quand tu considères ça, même là, dans des tournois le relevé avec les meilleurs pros, là, l'Allemagne, c'est une des équipes à qui il manque le moins de joueurs, si tu regardes ça. Parce que bien que le calibre se soit élevé, il y a quand même encore peu de joueurs qui atteignent la Ligue nationale. Donc, c'est presque à 3-4 joueurs près, c'est l'équipe que tu aurais même avec les pros, là.
Ben, c'est tellement un bon point. C'est exactement ce que Willy Desjardins, l'entraîneur de l'équipe canadienne, a dit en d'autres mots, mais le propos revenait exactement à la même chose. Il dit, c'est ça leur force. c'est qu'ils jouent ensemble tout le temps. Ils jouent ensemble dans les tournois internationaux, donc ils se connaissent bien. Alors, t'as bien raison. Cela dit, ça peut peut-être arriver, mais je pense qu'il faut quand même dire avantage au Canada à ce moment-ci pour le match de demi-finale. Si le Canada l'emporte, ben c'est après ça, ils joueront le match de la médaille d'or dimanche. Alors, quand même un beau parcours jusqu'à maintenant.
Ben certainement, puis juste pour ajouter là-dessus, puis je voulais te parler des filles également, mais tu sais, regarde, c'est un match d'1-0 ce matin, le Canada contre la Finlande. Et regarde la plupart des pointages, tu sais, beaucoup de matchs qui auraient pu tourner d'un bord ou de l'autre, puis j'ai l'impression que ça va être ça. Il y a peut-être juste la Russie qui a un alignement qui peut...
Qui lui,
c'est ça, tu sais, qui peut là vraiment là causer des dommages, mais on verra. Bien vite, Philippe, je voulais te demander juste une autre question sur les gars. En regardant les matchs du tournoi masculin, outre un Kovalchuk, par exemple, est-ce que tu t'es dit à quelques reprises, est-ce que ce gars-là, comment ça fait qu'il joue pas dans la Ligue nationale?
À propos des joueurs en général, oui, ouais. Clairement, à propos de... ben clairement, on en a parlé l'autre jour, mais tu vois Maxime Noreau, tu te dis pourquoi ce gars-là n'a pas eu sa chance en Ligue nationale. Il est mobile, il a tout un lancé, il est assez créatif avec la rondelle, il relance l'attaque. Puis tout le monde dit une chose, c'est que bon, il est sur le comité de leader de l'équipe. Attitude extraordinaire, joueur d'équipe sans pareil. Tu sais, ce gars-là, tu entends juste des belles choses à son propos. Puis tu dis, tu sais, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors ça, c'est un peu dommage. Il est rendu à 30 ans. Est-ce qu'il peut avoir une autre chance en Ligue nationale?
Il n'est pas tout seul. Tu regardes Chris Lee. Ben tu sais, je pense à Mark Streit. C'est sûr que le gars est rendu à 37 ans, mais ça me permettait juste de redire ce que j'ai toujours pensé, c'est que peut-être que 98 des 100 meilleurs joueurs de hockey au monde, ils jouent dans la Ligue nationale. Mais quand tu t'en vas au-dessus du 300e, là, te dire c'est qui tu connais, tu fais-tu dans la gang, t'es-tu bien accepté par le groupe,
ben oui.
t'as-tu au-delà de 3-4 ans.
Regarde le Canadien là, qui va chercher l'été dernier Jacob Derebeck, et là on nous l'a présenté à l'époque comme un gars qui pouvait vraiment apporter beaucoup de profondeur à l'équipe. Il faisait partie de cette nouvelle défensive revue, améliorée et renforcée par rapport à la saison dernière. Puis là, bon, ils font venir, ça fonctionne pas, puis là, bon, il est plus là. Alors là, tu dis, pourquoi pas Noro? Pourquoi pas? T'sais, je pense que ça aurait probablement été une expérience qui aurait été plus susceptible de réussir. Il y en a des joueurs comme lui qui ont réussi la Ligue nationale, peut-être pas pendant 15 ans, mais ils ont été là pendant un bout. Marc-André Bergeron, puis Francis Bouillon, puis des défenseurs créatifs avec un bon lancer, capable de comprendre une attaque, capable de s'installer en territoire adverse aussi. C'est des gars qui ont eu du succès, puis Noro me fait énormément penser à ces gars-là. Alors, je pense à lui, je pense à Kevin Poulin aussi, hier, qui est arrivé en relève, puis qui a eu une excellente performance, beaucoup de sang-froid, beaucoup de cran. Alors oui, il y en a.
Il y en a ici, là. Mais non, c'est pas des joueurs étoiles, mais c'est ça. Mais il y a des bons joueurs de hockey partout dans le monde. Je te bouscule un petit peu parce que j'aimerais ça qu'on puisse parler des deux autres sujets, mais plus rapidement, parce que dans le fond, c'est ce soir qu'on va le voir, mais sens-tu que là-bas, c'est un événement, la finale féminine, ce soir, où ça va être devant des gradins à moitié vide ou à moitié plein?
J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de Canadiens ici, puis j'ai l'impression que les gens vont venir en force pour appuyer l'équipe canadienne, puis les Américains aussi, il y a beaucoup d'Américains, alors j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir de l'appui, mais pour le reste, je ne sais pas, c'est très très difficile à dire. Mais souhaitons qu'il y ait un peu de monde, mais tu sais, peu importe, gradin vide, gradin plein, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce match-là va être un match joué par deux équipes passionnées qui veulent gagner. Ces deux équipes-là ne s'aiment pas. Elles ont un historique l'une contre l'autre. S'affrontent dans la finale du tournoi olympique en 98, en 2002. En 2006, non, les Américaines avaient été éliminées contre les Suédoises, une surprise. Mais c'était une finale aussi en 2010-2014. Alors donc, ils s'affrontent dans les championnats du monde en finale presque tout le temps depuis toujours. Alors, tu sais, ça crée une rivalité qui est hors du commun. Et les deux équipes sont arrivées ici à Pyeongchang et elles savaient très bien qu'elles finiraient par s'affronter en finale. Ça aurait pris quand même catastrophe d'un côté ou de l'autre pour que ce soit pas le cas. Puis des catastrophes, il n'y en a pas eu. Tu regardes même les matchs de demi-finale. Moi, je trouve pas que le Canada a joué encore un super gros match là de façon générale depuis le début du tournoi, mais malgré tout, en demi-finale, ils ont gagné 5-0. Et puis les Américaines ont gagné 5-0 contre leurs adversaires aussi. Alors, elles surclassent, elles survolent le tournoi, ces deux équipes-là. Elles savaient qu'elles s'affrontaient. C'est tantôt. Les joueuses vont être prêtes. Ça fait quatre ans qu'ils pensent pas seulement aux Olympiques, là, les joueuses canadiennes puis les joueuses américaines. Ils pensent à la finale des Jeux olympiques. Dans le cas du Canada, la finale contre les Américaines. Et dans le cas des Américaines, la finale contre le Canada. Ça fait 4 ans là, qu'ils attendent ça. Je dirais que les Américaines doivent l'attendre encore plus parce qu'ils ont encore le revers de Sochi en travers de la gorge. T'sais, à Sochi, les Américaines, elles mènent 2-0 avec 3 minutes à faire, puis elles vont perdre 3-2 en prolongation au Canada avec Marie-Philippe Poulin qui a réussi des miracles. Ouais. Alors, c'est sûr que ça reste. Hein, ça reste dans l'histoire de cette équipe-là. Alors, moi, je m'attends à un match de hockey absolument formidable. Ça commence dans 3 ou 4 heures là, maintenant, là, après 13 heures, 9 heures, puis là, il est à peu près 10 heures. Donc dans 3 heures, ça devrait être tout un match. Est-ce que ça peut être aussi extraordinaire que la finale de 2014? J'en doute.
Ben, c'est presque pas battable 2014, mais en même temps, je pense que ça va être un thriller, peut-être même en prolongation. Philippe, dernier sujet, par rapport à la controverse en patinage artistique. J'ai parlé à David Pelletier ce soir, et je lui ai évidemment le nom. Il y a un nom qui est resté surgit au cours des derniers jours, celui de dénommé Gayaguet. Écoutons David.
Voilà. Gayaguet, c'est un homme de guerre, un être belliqueux. Je l'appelle le petit Napoléon. Il est tout petit, puis il crie bien fort, il jappe. Écoute, cet homme-là, pour moi, en toute honnêteté, il a zéro crédibilité. C'est une personne qui a été bannie du patinage pendant 3 ans. 3 ans, je ne sais pas, pourquoi pas à une vie. Là. Le gars, il s'amusait à fixer les compétitions. Ça faisait des années qu'il le faisait. C'est juste qu'il l'a fait au mauvais moment. Il l'a fait aux États-Unis avec la puissance des médias. Finalement, il s'est fait pincer. Il n'a pas eu le choix. 3 ans, puis après ça, il revient. Et les Français décident de le remettre comme président de la Fédération des sports de glace. Et le revoilà encore en train de japper. Je m'excuse, mais moi, j'ai aucun temps à y accorder cet homme-là.
Écoute, Philippe, je te laisse 30
secondes. C'est assez direct.
C'est assez direct. Je te laisse 30 secondes pour réagir.
Bon, écoute, c'est très intéressant d'entendre les propos de David Pelletier. Moi, ce que je trouve absolument extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que Gayaguet, non seulement il s'en est pris à la juge canadienne, puis ça, je pense qu'il y a quand même un débat qu'on pourrait avoir éventuellement là au niveau des règles de gouvernance de la Fédération internationale. Je pense que le point soulevé est quand même intéressant. Mais cela dit, sauf que c'est peut-être pas lui qui devrait le soulever, parce qu'il y a un passé qui devrait l'encourager à faire preuve de prudence dans ses reproches envers les autres. Mais cela dit, je te dirais ceci, c'est que Gayaguet a réussi également à se mettre à dos le couple français qu'il a essayé peut-être de défendre maladroitement avec sa déclaration. Il leur a reproché de patiner de façon un peu vieillotte. Il fallait qu'il s'ouvre sur le monde. Et là, je cite ces mots. Alors, en entrevue à la radio française, les deux patineurs français, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, ont dit qu'ils comprenaient pas du tout ce qu'ils voulaient dire. Est-ce que c'était un petit jab aussi aux entraîneurs québécois? Je ne le sais pas, mais disons que M. Gayaguet a tiré de tous les côtés dans cette entrevue-là et il s'est pas fait des amis ni en France ni au Canada.
Ces patineurs qui ont battu un record, imagine. Alors,
merci. En plus.
Merci, Philippe.
Ils ont été malchanceux.
À très bientôt. On revient avec Jérémy Filosa, l'impact au menu pour finir.